imitant Courteline, un sceptique notoire, manifestant ainsi que l'on me désabuse.
Bonjour et bienvenue à la version francophone du Skeptic's Guide of Emergency Medicine. Aujourd'hui, nous sommes le 30 septembre 2014 et je suis votre honorable serviteur Marcel Aymon. Aujourd'hui, nous allons réviser un article dont le titre est CT Angiography for Blunt Cerebrovascular Injury Detection in Trauma Patient. J'enregistre cette version francophone du Skeptic Guide of Emergency Medicine lors du congrès KBEAM, un congrès qui s'est déroulé à Québec, offert par l'équipe BEAM sur 2 jours et qui est un congrès pour l'instant très intéressant. Il permet de réviser les articles des dernières années et de vous permettre de vous mettre à jour au niveau de la littérature de la médecine d'urgence. Alors sans plus attendre, allons-y avec notre cas. Un homme de 21 ans qui se présente dans un hôpital rural suite à un accident de skidoo. À l'arrivée, il est évident que le patient présente des lésions au niveau de la tête et du cou. Ses signes vitaux sont stables. Son score de Glasgow est à 7 sur 15. L'examen neurovasculaire démontre qu'aucune extrémité ne semble être atteinte. Toutefois, à la radiographie cervicale, il y a une présence d'une fracture de C3 et C4. En périphérie, le patient est intubé et transféré vers un centre de traumatologie tertiaire. Vous travaillez en tant que responsable de la traumatologie à ce centre de traumatologie tertiaire. La question est toujours la suivante. Est-ce qu'un angio-CT des carotides pour la détection des lésions potentielles au niveau carotidien et vertébral est nécessaire? Cette question est souvent un dilemme que nous avons quand on travaille à l'urgence et qu'on prend en charge des patients avec des traumatismes significatifs. Les lésions traumatiques carotidiennes et vertébrales sont peu fréquentes. Ça représente environ 1% des patients qui sont admis pour des traumatismes majeurs. Toutefois, c'est souvent des présentations retardées et malheureusement, ça conduit à beaucoup de mortalité et de morbidité, surtout de la morbidité, avec des lésions hémisphériques, ischémiques et des séquelles importantes au niveau fonctionnel. En 2013, un article a été publié dans Annals Surgery qui regardait l'utilité diagnostique de l'angio-CT carotidienne et vertébrale comparée à l'angiographie standard. Roberts et ses collègues ont publié un article dont le titre est « Diagnostic Accuracy of Compute Tomography Angiography for Blunt Cerebrovascular Injury Detection in Trauma Patient, a Systematic Review and Meta-Analysis ». Généralement, lors de nos critiques, on commence par poser la question PICO, donc P pour population, I pour intervention, C pour ce qui est comparé, et O pour outcome ou issue. Ici, au niveau de la population, Roberts et ses collègues ont fait une analyse de 8 études des patients de 16 ans et plus qui ont eu un traumatisme contondant, majeur, et pour lesquels on suspectait une lésion carotidienne ou vertébrale basée sur différents risques cliniques de la littérature. Donc la définition n'était pas nécessairement standard, mais c'était des patients qui présentaient dans un centre de trauma de niveau supérieur. 1426 patients ont été inclus dans des centres américains. L'intervention consiste à comparer l'angio-CT des carotides et vertébrales par rapport à au comparatif qui était ici l'angiographie standard par soustraction digitale. L'issue principale outcome, donc le O, était les capacités diagnostiques de l'angio-CT par rapport à l'angiographie standard. Les conclusions de l'auteur, et je cite, étaient les suivantes. Existing evidence suggests that the diagnostic performance of CTA varies considerably across studies, likely due to an implicit variation in diagnostic threshold across trauma centers. Moreover, although CTA appears to be lack of sensitivity to adequately rule out what we call BCVI, which is a blunt cerebrovascular injury, it may be useful to rule in BCVI among trauma patients with a high pretest probability injury. Fin de la citation. Dans la révision que nous faisons généralement dans le groupe Best Evidence Emergency Medicine, le groupe BEAM, nous usons des critères standards et je vais passer à travers les 6 critères dans le but de vérifier la validité de l'étude. Donc, est-ce que la question qui était posée était pertinente pour la clinique et établie sur des critères standards au niveau du test comparatif? Bien, on pourrait dire que oui, malgré que l'étalon standard ici soit l'angiographie standard, qui est un peu onéreuse et parfois non disponible ou peu disponible, ça reste probablement la meilleure mesure étalon pour l'instant. Est-ce que la recherche des études a été détaillée et complète? On peut répondre oui ici dans ce cas-ci. Est-ce que la qualité des études initiales a été évaluée adéquatement? Oui. Est-ce que l'évaluation des études est reproductible? Oui, les techniques utilisées telles que QADAS ont été suivies et les normes ont été respectées. Est-ce qu'il y avait une présence de peu d'hétérogénéicité entre les études? Eh bien non, actuellement, il y avait beaucoup d'hétérogénéicité entre les études, nous allons en parler. Est-ce que les résultats sommaires au niveau des tests diagnostiques sont assez précis pour être appliqués actuellement en clinique? Ou changer notre comportement clinique? Pour l'instant, nous devons répondre non. Allons un peu plus en détail. Voici les résultats les plus importants. Il y avait 8 études qui ont été incluses dans la méta-analyse après avoir revisé 6000 études, 5704 carotides et ou artères vertébrales ont été évaluées chez 1426 patients ayant subi des traumatismes qui sont présentés dans des centres de haut niveau. Les analyses ont été regroupés dans le but de nous donner une évaluation de la sensibilité, de la spécificité, le rapport de vraisemblance positive et négatif. Toutefois, un petit grain de sel, l'hétérogénéité était tellement grande que les rapports regroupés de sensibilité, spécificité et de vraisemblance sont à prendre avec des pincettes. Au niveau de la sensibilité, toutefois, nous avons une sensibilité de 66% avec un intervalle de confiance qui va de 49 à 79, mais la mesure d'hétérogénéicité est très élevée. Au niveau de la spécificité, ce qui pourrait être plus intéressant, ici avec un résultat de 97% d'intervalle de confiance de 91 à 99, encore une fois, l'hétérogénéité était très grande. Le rapport de vraisemblance positive est probablement le meilleur résultat que nous avons de cette étude et qui pourrait être le plus utile pour un médecin d'urgence. Il est de 20. Avec un intervalle de confiance 6.9 à 58. Un rapport de vraisemblance négative est peu utile, étant dans une zone ne permettant pas d'éliminer un diagnostic à 0.35. Malgré que c'est une étude systématique et une méta-analyse bien faite, la plupart des études avaient quand même des problèmes et on n'était pas sûr au niveau de l'aveugle, de la composante à l'insu des études qui étaient incluses dans la méta-analyse. Il y avait encore un bon problème d'hétérogénéité qui fait en sorte que cette hétérogénéité pourrait être due à la fois au type de TACO utilisé, à la variabilité entre les études et aussi à la façon dont est interprétée les mesures à l'angiographie et à l'angio-TDM. Un peu plus tôt, j'ai parlé un peu des rapports de vraisemblance. Je vais vous donner un petit peu d'informations là-dessus pour vous permettre de mieux comprendre. Un rapport de vraisemblance positif nous aide à principalement inclure un diagnostic ou faire le diagnostic. Et un rapport de vraisemblance négatif nous permet d'éliminer un diagnostic. Si le rapport de vraisemblance positif est plus grand que 10, bien, c'est fort probable qu'on peut inclure ou déterminer qu'il y a la présence d'une condition médicale. Et si le rapport de vraisemblance est négatif et en bas de 0.1, alors il est probable qu'on peut éliminer la présence d'une condition médicale. Si vous avez des valeurs qui varient entre 0.1 et 10, alors c'est peu utile pour notre clinique en tant que médecin d'urgence. Si vous avez un rapport de vraisemblance qui est à 1, alors il n'y a aucune utilité. Car c'est la valeur, on pourrait dire nulle. Ici, nous avons parlé que le rapport de vraisemblance positif était à 20, ce qui nous permet, éventuellement, si ça se confirme dans le futur, que l'angio-CT-TDM serait un test utile pour prouver la présence de lésions carotidiennes et vertébrales. On serait assez confortable à ce moment-là pour faire l'investigation. Pour l'instant, les conclusions de l'auteur sont similaires aux conclusions que le groupe de Beam fait, à savoir qu'il y a une grande variabilité au niveau des études incluses dans la méta-analyse et que les résultats que nous avons au niveau de la comparaison entre l'angiocité et l'angiographie standard nécessitent d'autres études afin de confirmer l'utilité en clinique. En résumé de cette analyse, ce qu'on peut dire, c'est que les lésions carotidiennes et vertébrales pour les patients avec des traumatismes sévères sont peu fréquents, mais c'est une condition qui est quand même importante à identifier qu'on a pu manquer. Toutefois, le meilleur test qui est encore disponible selon la littérature, selon ce que Roberts a fait dans sa méta-analyse, le meilleur test disponible demeure celui de l'angiographie par soustraction, qui est un test cher et difficile et pas disponible nécessairement dans tous les milieux. Que faire avec vos patients? Bien, si vous avez un patient avec un angiocité négatif et que ce patient a une forte prévalence ou une forte probabilité pré-test d'avoir une atteinte des vaisseaux carotidiens ou vertébrales suite à un traumatisme, bien, vous devez continuer l'investigation et ne pas vous arrêter là et probablement aller plus loin avec l'angiographie standard. Faire un test d'angiocité chez un patient qui a une très faible probabilité pré-test est probablement un examen considéré futile. Et quoi dire à votre patient? Dans ce cas-ci, comme le patient est intubé, c'est plus à la famille. Actuellement, on n'est pas sûr que les angiocytes ou les tests reliés à vos vaisseaux du cou et de la tête vont vraiment exclure une lésion suite à votre traumatisme. Si vous avez un traumatisme significatif, comme actuellement vous le présentez ou que le patient le présente, c'est beaucoup mieux probablement d'être dans un centre tertiaire avec un radiologiste d'intervention disponible ou peut faire un test qui est considéré comme le meilleur test. Toutefois, si ce n'est pas possible, mais l'angiocity qui démontre la présence d'une lésion va quand même conduire à l'évaluation chirurgicale de cette lésion et l'hospitalisation. Ceci conclut la fin de notre analyse critique. Je voulais vous rappeler que le congrès KBIM qui s'est déroulé à Québec a été et semble encore une grande réussite. Si vous n'avez pas pu nous joindre avec nous, bien, je vous invite peut-être à vous joindre à la prochaine conférence de BIM, qui est le Ski BIM, et qui se tiendra en janvier en Colombie-Britannique, soit janvier 26 et 28. Vous pouvez trouver l'information sur le site de BIM, B-E-E-M. Et comme Ken dit toujours, remember to be skeptical of anything you learn, even if you heard it, on the Skeptic's Guide to Emergency Medicine. Merci, à la prochaine.
Mais j'envie les pauvres d'esprit pouvant y croire.